Pour notre sixième événement de l'année, c'est notre dernier événement avant l'été. Et c'est un grand plaisir d'avoir Philippe Mou avec nous.
Merci.
Philippe. Philippe, tu viens d'où?
Alors, à l'origine, je suis Irlandais du Nord, donc de près de Belfast.
Cool. Et qu'est-ce que tu fais en ce moment?
En ce moment, donc, je suis technicien de la Bible et je travaille dans les startups de nouvelles églises. En fait, c'est quelqu'un d'autre qui l'a dit. Il y avait une fille dans mon église qui essayait d'expliquer à ses collègues de travail ce que je faisais. Et pasteur, ça passait pas. Personne ne comprenait ce que c'était un pasteur. Donc, elle a dit, c'est comme un technicien de la Bible. Et donc, moi, j'ai bien aimé ça. Donc, maintenant, je suis technicien de la Bible. Et je travaille dans les startups de nouvelles églises.
Et tu es marié?
Marié, donc, à Rachel, mon épouse. Et j'ai 5 enfants. Julia, 16 ans, Anna, 14, Abigail, 12, Théo, 7 ans et Zoé, 5 ans. Donc, un seul garçon et 4 filles.
Pas mal, pas mal. C'est super. Bah, Philippe va nous parler ce soir de la question de tout abandonner pour Jésus. Est-ce que cela vaut le coup? Nous avons fait une série d'événements sur les bases de la foi chrétienne. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à les grandes questions de la vie? Et à chaque fois, nous essayons de poser une grande question de la vie et voir comment Jésus y répond. Et c'est ça notre but en tant que francophones à Londres. Nous voulons organiser ces événements pour pouvoir rencontrer d'autres francophones à Londres et pour pouvoir discuter de ces choses ensemble. Philippe va nous parler. Il y aura quelques moments de discussion et puis à la fin, on va aller dans un restaurant juste à 500 mètres d'ici pour passer du temps ensemble pour bien manger. Mais je vais laisser la parole à Philippe.
Merci Will, merci beaucoup. Tout abandonner pour Jésus, est-ce que cela vaut le coup? Donc cela implique que... Ouais, pardon, qu'est-ce que tu veux faire?
Tu as besoin de ça.
Ok, très bien. Cela implique que pour suivre Jésus, pour être chrétien, en d'autres termes, il faut tout abandonner. Donc ça, c'est ce qui sous-entend la question. Et je pense qu'il y a une question sous-jacente à cela, qui est une question qui préoccupe pas mal les Français ou les francophones de manière générale. Et si on peut résumer cette question-là, je pense qu'on pourrait dire quelque chose comme la belle vie. La belle vie, qu'est-ce que c'est la belle vie? C'est une question qu'on va essayer de poser dans 10 minutes. Qu'est-ce que pour vous représente la belle vie? Est-ce que vous êtes sûr d'avoir la belle vie? Comment vous faites pour aller vers la belle vie? Est-ce que vous êtes sûr d'y arriver? Parce que je pense que ça, c'est une question qui touche à chaque être humain. On veut tous, ou bien on a tous une idée de la belle vie, du bonheur, d'être heureux. Et on y va par tous les chemins qu'on connaît pour arriver à ce but-là. Alors, si je parle à des francophones, et si c'est le moment du bac, et c'est le cas, bientôt le bac de philo, tout le monde sait que Pascal, ça peut faire irruption à ce moment-là. Et donc, je ne résiste pas au plaisir de citer Pascal. Pascal disait la chose suivante, « Tous les hommes recherchent d'être heureux. » Voilà. Donc, il l'a dit, la belle vie, le fait d'avoir quelque chose ou bien d'abandonner toute autre chose pour avoir quelque chose, ça rejoint cette question d'être heureux. Cela est sans exception pour aussi Pascal. Quelques différents moyens qu'il s'y emploie. Ils tendent tous à ce but. Ce qui fait que les hommes vont à la guerre et que les autres n'y vont pas est ce même désir qui est dans tous les deux accompagné de différentes vues. La volonté ne fait jamais la moindre démarche que vers cet objet. C'est le motif de toutes les actions de tous les hommes, jusqu'à ceux qui vont se pendre. Et ça, c'est la claque pascalienne à la fin. Même les gens qui donnent fin à leur jour le font parce qu'ils pensent être plus heureux morts que vivants. Et donc, ils sont en fait prêts à tout abandonner pour avoir le bonheur suprême. Et moi, je pense que chacun, s'il était honnête autour de ces tables, dirait « Oui, je poursuis, tant bien que mal, avec une réussite mitigée, le bonheur dans ma vie. Je veux être heureux, je veux être heureuse. » C'est ce que je veux. Et tout ce que je fais, malgré tout, c'est dans ce but-là. Si je suis à Londres, je suis venu à Londres pour décrocher l'emploi qu'il me faut, pour avoir l'argent qu'il me faut, pour rencontrer les gens qu'il me faut, pour enfin avoir la vie que je veux, que je désire, pour être heureux dans cette vie et pour pouvoir enfin être tranquille, heureux comme je veux. On était à Tate Modern cet après-midi avec Abigail et Will, et on était en train de regarder tout autour de nous à Londres. C'était fascinant, il y avait des apparts de luxe juste en face de nous, avec des chambres disposées comme il faut. Et on se disait, waouh, les gens qui habitent là doivent avoir vraiment l'impression d'être arrivés. Sauf qu'il n'y avait personne dans aucune des pièces qu'on pouvait voir depuis la Tate Modern. Aucune personne pour vivre dans ces appartements de bijoux de luxe. Intéressant. Est-ce que ce n'est pas un peu cela, parfois, lorsqu'on vise à être heureux, on y arrive et puis c'est le vide? En tout cas, c'est ce que Pascal dit plus tard, mais on y arrive après. Piaf dit à peu près la même chose lorsqu'elle chante « La vie en rose ». On cherche la belle vie. C'est quoi la belle vie? Et là, c'est la romantique qui parle des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Et donc peut-être vous êtes là et au lieu de l'argent ou de la réussite dans l'emploi ou quelque chose d'autre, ce qui motive, ce qui donne vie à votre vie, ce qui est le bonheur suprême pour vous, c'est trouver enfin cette personne-là avec qui je peux partager ma vie. Et si j'avais cette personne-là, alors tout, je verrais la vie en rose. Tout serait magnifique. Ça comblerait tous les besoins que j'ai. Je serais enfin heureux, enfin heureuse. Et nous savons tous la fin tragique d'Edith Piaf, qui n'a pas trouvé, malgré les relations amoureuses diverses et variées, la vie en rose. Au contraire, sa vie a sombré, plutôt dans le noir. Et c'est un peu le constat que je fais lorsque je fais le tour de la culture francophone. Ce désir profond d'être heureux, cette recherche sans cesse du bonheur, est toujours quelque part une insatisfaction qui règne. Je ne sais pas si vous aimez Gide, André Gide, ou si vous avez lu un peu Gide. Moi, j'ai dû lire Gide dans mes études français à la fac. J'ai bien aimé Gide. Je trouvais qu'il avait une façon de dire les choses, une façon d'aborder la vie, qui nous permettait justement d'entrer dans les plaisirs, dans le bonheur, dans la quête d'être heureux, et puis de constater aussi le goût amer que cela peut avoir lorsque, même lorsque, et peut-être surtout lorsque on y arrive. Cette citation m'est restée et j'y reviens souvent. Regret, remords, repentir. Alors ça, c'est la vie de quelqu'un. Et plus une personne prend de l'âge, plus une personne avance dans la vie, plus on a des regrets. Si j'avais fait ça, si je n'avais pas fait ça. Des remords, j'aurais pas dû faire cela. J'aurais dû faire cela. Des repentirs, là, ça touche la culpabilité, la honte, la peur, l'angoisse, le cauchemar. J'ai vraiment fait ça? C'était vraiment moi qui étais capable de faire ça? Et pourtant, lorsqu'on regarde en arrière, ce qui est regret, remords et repentir, c'est bien les joies de naguère. Je voulais faire ça. C'était moi qui voulais faire ça. C'était une joie que je me présentais comme une fin en soi, une raison d'être. Le bonheur, je l'ai choisi, et de l'autre côté du bonheur, de l'autre côté de cette expérience que je désirais tant à ce moment-là, je tourne et je regarde en arrière et c'est que des regrets, c'est des remords, c'est des repentirs. Les joies de naguère, vues de dos. Et je ne sais pas quel âge vous avez beaucoup plus jeune que moi, pour la plupart entre vous en tout cas. Moi j'ai 44 ans et moi je sais très bien que lorsque je regarde en arrière, les quêtes de bonheur que j'ai pu choisir, à certains moments j'ai choisi de faire des choses. Et je les voulais, et en même temps, je ne les voulais pas. Parce qu'après le goût amer, des regrets est venu. Revenons à Pascal. Dans la suite de la citation avec laquelle j'ai commencé, lorsqu'il dit que tout le monde cherche le bonheur, tout le monde cherche à être heureux par tous les moyens qu'il fait, Pascal pose une question très intéressante. la belle vie, tout abandonner pour avoir quelque chose qui s'appelle le bonheur. Tout cela, si on prend un peu de recul, ça ne rime à rien. Et il réfléchit comme le cartésien qu'il est. Et cependant, depuis un si grand nombre d'années, jamais personne n'est arrivé à ce point où tous visent continuellement. Tous se plaignent. Prince, sujet, noble, roturier, vieux, jeune, fort, faible, savant, ignorant, saint, malade, de tout pays, de tout temps, de tous âges et de toutes conditions. Tout le monde se plaint. Et si tout le monde se plaint, ça sous-entend évidemment que personne n'a trouvé ce qu'il désirait. Personne n'est arrivé à la destination du bonheur. Et c'est vrai que les Français sont les rois de râler. Je sais pas si... C'est pourquoi je dis souvent que Abigail, c'est la plus française de toute la famille. Parce que c'est la... Non, je dis pas. Mais les Français sont les champions du monde pour râler. Tout le monde est toujours insatisfait et satisfait de ne pas être satisfait. Mais il continue. Une épreuve. Donc cette épreuve-là de chercher le bonheur, de ne pas y arriver. Une épreuve si continuelle et si uniforme devrait bien nous convaincre de notre impuissance d'arriver au bien par nos efforts. Mais l'exemple nous instruit peu. Il n'est jamais si parfaitement semblable qu'il n'y ait quelques délicates différences. Et c'est de là que nous attendons que notre attente ne sera pas déçue en cette occasion comme en l'autre. Et ainsi le présent ne nous satisfaisant jamais, l'expérience nous pipe et de malheur en malheur nous mène jusqu'à la mort, qui en est le comble éternel. Ah, si seulement cette circonstance-là de ma vie pouvait changer, alors à ce moment-là, je serais heureux. Ah, si seulement j'avais un peu plus d'argent, alors ça me rendrait heureux enfin. C'est vrai que la dernière fois, non, mais cette fois-ci, c'est différent. Et on s'argumente comme cela, on prend sa défense et son accusation tour à tour, et on se dit, si seulement on pouvait juste changer d'un degré les conditions et les circonstances, je pouvais enfin arriver au bonheur. Et pourtant, l'expérience nous montre que cela n'arrive jamais. Personne n'arrive jamais au bonheur complet. Et donc, à la question qu'on a posée tout à l'heure, en début de soirée, tout abandonner pour Jésus, vaut-il vraiment le coup? Moi, je poserais une autre question. Tout abandonner pour l'objet de votre bonheur, sachant que vous y arrivez jamais. Mettre tous ses œufs dans ce panier-là du bonheur qu'on cherche, et donc abandonner Jésus pour cela. Est-ce que vous êtes sûr que cela vaut le coup? Autant de questions et j'essaierai d'apporter des réponses après la discussion. Mais pour la discussion, je propose deux questions que vous pouvez aborder autour des tables. Première question, comment définiriez-vous la belle vie? Est-ce que vous avez une idée de cela? Essayez s'il vous plaît de ne pas rester dans les lieux communs chrétiens. Hein? Donc, vous ne soyez pas les bons élèves, mais parlez vraiment de ce que vous pensez, ce que vous faites pour être heureux, pour avoir la belle vie. Et comment est-ce que vous tentez d'y arriver? Comment est-ce qu'on peut y arriver, cette belle vie, quelle qu'en soit la définition qu'on y donne? Voilà, 10 minutes de discussion et après je reviendrai pour apporter une réponse biblique à ces questions. C'est le moment, allez. Ben, j'espère que vous avez un peu échangé de toutes les manières autour des tables et que vous avez un peu progressé sur cela. Peut-être que vous êtes venu et vous n'aviez pas du tout d'idée par rapport à la vie, par rapport à la belle vie, par rapport à la vie que vous pourriez espérer avoir. Et justement, c'est le moment de poser ces questions-là. Mais pour la plupart des personnes que j'encontre, dans tous les cas, les gens ont quand même une idée de cela. Et la Bible aussi a une idée de cela. Et la Bible parle de la belle vie dans un verset qu'on va aborder dans un instant, de manière assez franche. C'est-à-dire que la Bible parle du bonheur, parle de la vie, la vraie, la vie en abondance, la vie telle qu'on aimerait la vivre, et parle même de la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est une expression intrigante, n'est-ce pas? La vie éternelle qui implique une sorte de quantité de vie, aussi une sorte de qualité de vie, mais aussi un enracinement de la vie telle qu'elle devrait être, dans quelque chose qui nous dépasse. Alors là, c'est je pense, qu'un point de frottement majeur avec ce que nous vivons aujourd'hui dans nos sociétés occidentales. Parce que la vie nous est présentée comme une série de choix par lesquels on définit pour nous-mêmes ce que la vie devrait être. Et par ce processus, on définit ce que devrait être une bonne vie pour moi, et ça me regarde, ça ne vous regarde pas, et je poursuis mon chemin et mon cheminement un peu en faisant fi de ce que les autres peuvent penser de cela. Je décide moi-même de ce que la vie devrait être, et je poursuis cela en pensant que cela va me procurer le bonheur. Nous sommes dans cela les héritiers de tout ce que Sartre et Camus et les existentialistes ont pu dire et écrire, à savoir que l'existence que nous avons précède l'essence de ce que nous sommes. J'existe, et puis avec l'existence que j'ai, dont je suis doté, j'invente la vie, et puis je poursuis cette vie-là. Et la vie est la conséquence de mes choix. Tandis que dans la vision biblique des choses, et c'est à cela que renvoie l'idée de la vie éternelle, il y a un idéal de vie. Il y a un Dieu qui a créé la vie, et l'essence de ce que c'est la vie précède ma petite existence en tant qu'être humain. J'ai une place, une grande place. Mais cette place est à trouver dans une grande histoire qui me dépasse. Lorsque je viens à l'existence, je n'ai pas à décider de ce qu'est la vie. Je n'ai pas ce fardeau-là qui m'est imposé. Mais la vie a déjà été définie. La vie a déjà ses contours, sa texture, son goût, sa couleur. Et à moi, en tant que personne, de me comporter dans cette vie pour être en conformité avec la vie telle que Dieu l'a créée. La vie éternelle, c'est ça. C'est reconnaître qu'il y a une vie idéale qui est là, qui me dépasse, dont je ne suis pas le décideur, mais qui m'est offert par Dieu. Et ça, c'est un constat qui est vraiment beaucoup discuté dans nos sociétés. On n'aime pas l'idée que Dieu puisse définir pour nous ce que c'est la vie. Et donc, ce que c'est une bonne vie. Et ce que c'est une mauvaise vie. Et parce qu'on a du mal avec cela, on a du mal avec le reste. Mais ce constat-là est fondamental. Et lorsque nous lisons le verset en entier, et on va le faire maintenant, ça nous permet de comprendre pourquoi Jean explique les choses de cette manière-là. Parce qu'il y a une vie éternelle à laquelle on peut accéder, qui est déterminée par Dieu dans ses contours et dans ce qu'elle contient, c'est pour cela que Jean peut présenter les choses de cette manière-là. Je lis le verset entier. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne se confie pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. À savoir, dans ce verset-là, qui se trouve à la fin du chapitre 3 de Jean, il y a deux destins qui sont présentés. L'un, c'est la vie éternelle, et l'autre, ce n'est pas l'absence de vie, ou ce n'est pas dit dans ces termes-là, mais c'est la colère de Dieu. Et là, on rechigne, on dit non. On ne veut pas entendre parler d'un Dieu de colère. Pourquoi? Parce qu'on rejette d'emblée l'idée que Dieu puisse décider d'une bonne vie et que nous, nous héritons de cette définition-là d'une bonne vie et que l'on veuille ou pas, on est contraint par cette définition-là d'une bonne vie et on doit s'y plier. Lorsque Dieu définit la vie éternelle, il la définit de cette façon-ci. Il dit que tout être humain qui existe, qui respire, qui vient à l'existence, a deux devoirs très simples. Ces deux devoirs très simples consistent à aimer Dieu et à remercier Dieu pour la vie que cette personne a. Parce que moi, je n'ai pas créé ma propre vie. Moi, j'ai reçu ma vie. Et Dieu dit que c'est lui qui a donné la vie et l'être à chacun. Et donc, je suis redevable envers Dieu pour la vie que j'ai, pour la respiration que j'ai. Je n'ai pas créé le monde dans lequel je vis. Je suis dépendant de quelque chose, de quelqu'un. Donc, Dieu dit que le premier devoir de l'être humain, c'est de reconnaître qu'il est dépendant de Dieu et d'être reconnaissant et d'adorer Dieu comme étant le créateur de toutes choses. Et le deuxième devoir de tout être humain est d'aimer celui qui est autour de lui, de vivre une vie d'amour de Dieu et du prochain. Ça, c'est la vie, la belle, la vraie, la vie éternelle, selon Dieu. Et c'est pourquoi Dieu est en colère contre ceux et celles qui, en voyant le monde qu'il a créé, en voyant la vie qu'il leur a donnée, n'aiment pas Dieu comme ils méritent d'être aimés et n'aiment pas leur prochain comme ils méritent d'être aimés. Alors, pour expliquer la colère de Dieu de nos jours, souvent les gens réagissent négativement à cela, comme si c'était une mauvaise nouvelle, la colère de Dieu. Et moi, je pense que c'est fondamentalement une très bonne nouvelle d'avoir un Dieu qui prend tellement au sérieux mes actes, mes paroles, mes attitudes, tout ce que je fais et tout ce que je suis, qu'il peut être en colère ou pas avec moi-même. J'existe donc non pas dans un monde où mes actes et mes attitudes, mes paroles n'ont pas de conséquences, sont légers, mais dans un monde où Dieu prend très au sérieux tout ce que je dis, tout ce que je fais, tout ce que je pense, si j'aime ou si j'aime pas. Vous êtes, j'imagine, tous employés quelque part, et j'imagine que vous avez tous des entretiens de fin d'année, n'est-ce pas? Où le big boss, il dit, toi, tu viendras me voir à telle heure, dans tel endroit, et on passera une heure ensemble, et on verra si tu as accompli ce que je t'ai demandé d'accomplir, si tu as atteint les objectifs que je t'ai donnés en début d'année. Et donc, le moment arrive, et tu entres dans le bureau du patron, et le patron t'invite à t'asseoir, et tu as ton entretien de fin d'année. Et les objectifs sont passés en revue, et on voit si oui ou non tu as accompli. Tout le monde trouve ça normal et bienfaisant dans le monde de l'entreprise. Tout le monde se dit, si le patron ne me convoque pas, c'est qu'il s'en fiche de mon travail. Il ne s'intéresse pas à moi, il ne s'intéresse pas à ce que je fais. Et donc, de ce fait, ce que je fais n'a pas vraiment beaucoup d'importance pour lui, parce qu'il se désintéresse complètement. Dans la Bible, nous voyons que Dieu nous propose à chacun d'entre nous, des êtres humains créés à son image, un entretien de fin d'année, sauf que c'est un entretien de fin de vie. Et lors de cet entretien-là, Dieu nous invite à nous asseoir et à passer en revue notre vie pour voir en quoi et jusqu'à quel point la vie que l'on a vécue correspond à sa définition, à lui, de la vie éternelle, de la vie telle qu'elle devrait être. Et moi, je trouve que c'est très bien comme cela. Si ce n'était pas le cas, rien de ce que je faisais, rien de ce que je peux dire ou croire ou penser n'a de l'importance. C'est là une seconde et ça part en fumée. Tandis que là, j'ai affaire avec un Dieu personnel qui regarde ma vie et pour qui ma vie compte. Mais si je veux ça, alors ça implique aussi que Dieu peut ne pas être content avec ma vie. Dieu peut être en colère avec moi. Dieu peut regarder ma vie et trouver que j'ai manqué dans l'amour de Dieu et que j'ai manqué dans l'amour du prochain. Alors, dans l'amour de Dieu, c'est difficile. C'est un peu nébuleux. C'est un peu difficile à mettre des mots parfois. Et donc, on va mettre ça de côté. On va juste se concentrer une seconde sur l'amour des autres. Est-ce que dans ma vie, est-ce que dans la semaine dernière, j'ai aimé les autres comme j'aurais dû les aimer? Ou est-ce que j'ai été plutôt motivé par l'égoïsme et par l'intérêt personnel? Est-ce que j'ai vécu selon mes propres idéaux, mes propres idées de ce que je devrais être? Ou est-ce que j'ai été en deçà de ce que je devrais faire moi? Et je pense que là, lorsque je pose cette question-là, personne ne m'a jamais répondu. J'ai été totalement à la hauteur de mes propres principes cette semaine. J'ai été totalement à la hauteur des principes des autres cette semaine. Jamais rencontré personne qui a osé le dire. Dieu nous propose soit la vie éternelle, soit sa colère. Sa colère qui veut la séparation éternelle avec lui et l'absence totale de bonheur pour l'éternité. Ça, c'est les deux destins. Alors, lorsque je pose la question dans ces termes-là, évidemment, si on pouvait éviter la colère de Dieu et avoir la vie éternelle, on ferait ce choix aisément. On dirait « oui, 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 je veux la vie éternelle ». Et c'est à ce moment-là qu'on revient à notre question initiale. Vaut-il la peine de tout abandonner pour suivre Jésus? Si Jésus nous procure la vie éternelle, la vie avec Dieu, la vie selon Dieu, dans l'amour de Dieu et l'amour du prochain, et que cette vie-là est vraiment la vie abondante, qui fait de nous des êtres humains pleinement humains, alors à ce moment-là, je suis prêt à dire oui. Alors, pour ce faire, que faut-il faire? Et dans le verset que j'ai cité, il y a deux choses à faire. Croire au Fils et se confier au Fils, tout simplement. Et vous remarquerez que là, il y a l'absence totale de tout ce qui est religieux, tout ce qui est rituel, tout ce qui peut être des accomplissements personnels ou l'effort humain. Dieu ne me demande pas d'être à la hauteur de quelque chose, mais d'accepter quelque chose, de croire au Fils et de me confier au Fils. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Croire au Fils, ça veut dire que je vais regarder la vie de celui qui est présenté dans l'évangile de Jean, le Fils, Jésus, et je vais croire à tout ce qu'il a dit de lui-même, tout ce qu'il a dit de Dieu, tout ce qu'il a fait, et tout le sens qu'il a donné à tout ce qu'il a fait. Un peu plus tôt dans ce même chapitre, si vous avez les petites fascicules devant vous, vous pouvez trouver à la page 11 ce que je vais citer. En haut de la page 11, croire au Fils, c'est croire que ce verset est vrai, donc Jean 3, 16. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Croire au Fils, ça veut dire regarder la vie et la mort de Jésus et comprendre que Jésus est mort non pas pour ses péchés à lui, non pas pour ses manquements à lui, mais pour tout ce que j'ai pu faire qui n'était pas conforme à la vie telle que Dieu la désire. Dans d'autres termes, admettons que moi, je n'ai pas aimé mon prochain comme j'aurais dû le faire. Admettons que j'ai été égoïste là où j'aurais dû être généreux, où j'ai menti au lieu de dire la vérité. Tout ce que vous voulez mettre dans ce panier-là, du manque d'amour pour le prochain, tout ce qui invite sur moi la colère de Dieu, comme on vient de le dire. Croire au Fils veut dire admettre et comprendre et accepter que Jésus est mort justement pour tout ce que j'ai fait qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Je crois que Jésus est mort à ma place. Je crois que Jésus a subi la colère de Dieu que je mérite à ma place. Je crois que Jésus a pris la punition, le châtiment que je méritais moi à cause de mes manquements lorsque lui, il n'en avait pas. Croire au Fils. Et remarquez bien que le Fils ne s'interpose pas entre Dieu le Père et nous comme si Dieu le Père voulait absolument nous punir. Mais dans ce verset-là que nous venons de lire, au verset 16 à la page 11, c'est Dieu, dans son grand amour, il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils volontairement. Et le Fils est venu volontairement afin de mourir pour chacun d'entre nous, afin de nous donner la vie éternelle, la vraie vie, la vie abondante dont nous avons discuté tout à l'heure. Croire au Fils. Et la deuxième chose que ce verset que nous avons lu auparavant nous indique, c'est se confier au Fils. Se confier au Fils. Et cela veut dire obéir à lui dans tous les détails de notre vie. Ça veut dire lui faire confiance entièrement. Ne pas essayer à rajouter quoi que ce soit de nos efforts à ce qu'il a fait parfaitement pour nous. Si Jésus est mort pour le pardon de nos péchés, si Jésus est mort pour nous offrir la vie abondante, pesant l'importance et l'énormité de cela, le Fils de Dieu éternel est venu sur terre, il est devenu bébé, il a vécu, il est mort une mort cruelle à la croix. Qu'est-ce que moi je pourrais apporter à ça, qui aurait de la valeur à côté de ça? C'est comme si une maison coûtait des millions et des millions et des millions de livres et que je venais avec 5 pence pour ajouter ça au prix énorme de la maison. Ça n'a aucun sens. Quelqu'un qui peut acheter une maison comme ça n'a pas besoin de mes 5 centimes. Si Jésus a tout fait pour moi, s'il est mort pour moi, si je pèse l'énormité de cela, qu'est-ce que je peux moi contribuer en tant soit peu à ça? Je ne peux rien faire, je dois juste me confier à lui et lui obéir dans le reste de ma vie. Et cela, ça veut dire que j'entre enfin dans la réalité de ce que Dieu a toujours proposé pour les êtres humains. Aimer Dieu, aimer mon prochain, tout comme Dieu m'a aimé en Jésus, tout comme Jésus a aimé les autres lorsqu'il était sur terre. J'entre pleinement dans cette vie-là et je trouve, surprise, qu'en poursuivant le bonheur des autres, en poursuivant leur bien, en me donnant entièrement à Dieu, de l'autre côté de cela, d'une manière non calculée, se trouve le vrai bonheur, celui qui dure à jamais, celui qui satisfait, celui qui veut dire que même si j'ai rien de tout ce que faisaient mes rêves auparavant, si j'ai pas d'emploi, si j'ai pas d'argent, si j'ai pas de réputation, le fait de connaître ce Dieu-là de cette manière-là et de donner ma vie pour aimer les autres, c'est ça qui est vraiment la vie éternelle. C'est ça qui satisfait vraiment le cœur de l'être humain. Et c'est ce que Pascal dit à la fin de la citation que j'ai lue en début de soirée. Qu'est-ce que donc que nous crie cette avidité, ce désir d'être heureux et cette impuissance d'y arriver? Sinon qu'il y a eu autrefois dans l'homme un véritable bonheur, dont il ne lui reste maintenant que la marque et la trace toute vide, et qu'il essaie inutilement de remplir de tout ce qui l'environne, recherchant dans les choses absentes le secours qu'il n'obtient pas des présentes, mais qui en sont toutes incapables. Parce que ce gouffre infini ne peut être rempli que par un objet infini et immuable, c'est-à-dire par Dieu lui-même. Et Dieu en Jésus-Christ, lorsqu'il meurt à la croix, lorsqu'il revient à la vie, lorsqu'il monte à la droite de Dieu, lorsqu'il règne, lorsqu'il revient, Jésus lui-même se propose de venir remplir ce vide-là, cette quête-là, pour l'éternité, en pardonnant nos péchés et en nous mettant sur un chemin où nous vivons l'amour de Dieu pour nous et pour les autres d'une manière éternelle. Et donc à la question, tout abandonné pour suivre Jésus, est-ce que cela vaut le coup? Moi je dirais de ma propre expérience, oui, mille fois oui. Je trouve dans le fait de connaître Dieu par Jésus-Christ, dans le fait d'essayer d'aimer les autres par Jésus-Christ, d'être pardonné pour lui, pour tous les manquements que j'ai, je trouve dans cela un bonheur indicible. Et je dirais oui, mille fois oui à cette question-là. Et je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous avez déjà dit oui à cette question-là. Pour ceux qui hésitent encore, ceux qui ne croient pas encore en cela, je vous invite à réfléchir sérieusement à tout ce que j'ai dit. Mais je vous poserai une autre question aussi. Votre définition de la belle vie, du bonheur, est-ce qu'elle... elle vaut le coup de tout abandonner en sa recherche? Et si la réponse à cette question-là n'est pas certaine pour vous, alors je vous invite à revenir à la question de Dieu, de Jésus, à méditer ce que Jésus a fait pour nous, à croire en cela et à vous confier éternellement en lui pour la vie éternelle. Merci de votre attention. Je ne sais pas si c'est une discussion maintenant, c'est ça? Donc, je vous invite à discuter. Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas comprises? Posez les questions autour de la table. Est-ce que les choses que vous aimeriez beaucoup de plus de précision? Sentez-vous libre. Moi, je me suis senti un peu seul là, donc je vais me joindre à cette table-là qui compte quelques personnes. Et donc, voilà, je vais… Allez-y.